En français, puisque nous sommes sur chassidoute.org, alors il va falloir commencer en la langue de Rashi. Le mois de Yud Shvat, c'est en même temps le jour de la Iloula, la Istalkout du Rabbi précédent, et en même temps c'est le jour où le dernier Rabbi a pris sur lui la responsabilité du mouvement Chabad, et plus particulièrement, plus généralement, il a pris la responsabilité du monde juif. Comme il écrit dans ses lettres, le Chol Bnei Israël, il écrit les lettres, en général, tout le Ham Israël, et pas seulement au Chassidim. Et plus que ça, il considère que tout le Ham Israël sont des Chassidim. S'ils ne sont pas concrètement des Chassidim, alors qu'on est, alors où on parle, ça va l'être avec le temps. C'est-à-dire que tout le monde sera chassidim, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu au maximum du niveau du service de Dieu qu'on peut avoir. Et donc, les deux événements viennent en même temps. Et bien que concrètement, le rabbi a pris la responsabilité un an après, peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui traduirait en catimini, pour ceux qui ne comprennent pas, non? Les gens spécialistes de... Non, ce serait bien. Parce que c'est bien les gens qui parlent français sur chassidoute.org, mais aussi nous sommes en Eretz HaKodesh, et donc la langue officielle, après l'arabe, c'est quand même l'hébreu. Alors je demande si quelqu'un veut avoir la gentillesse de traduire à ceux qui sont pas encore francophones, parce que les francophones sont quand même en tort de pas parler hébreu. Kitsu, il y en a qui pensent que le rabbi a fait 55 ans de Nessiout. En vérité, il n'a pas fait 55 ans de Nessiout, il a fait 56 ans de Nessiout. Parce qu'on est en Tafshin Samervav, en 66, et qu'on pense pas que la Nessiout, elle a eu lieu un an après, c'est-à-dire à la date où officiellement le rabbi a accepté la Nessiout. Il a laissé passer un an après le départ du Rayat, en 50, et un an après, en 51, il a pris la Nessiout. Ça, c'est d'après ce que nos yeux ont vu. Mais en fait, il a pris la Nessiout à seconde même où le rabbi précédent est parti. Ça s'est dévoilé un an après. Parce que c'est connu qu'il ne peut pas y avoir une seconde de vacances. Il ne peut pas y avoir de vacances du pouvoir. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où un soleil se couche, un soleil se lève. Et donc, c'est l'année où il y a eu une espèce de flottement dans l'année, toute l'année où le rabbi ne voulait pas prendre l'année Siout, c'était quand même lui le Nassi, puisque rétroactivement, c'était lui qui a choisi d'être Nassi, et on a su par la suite d'ailleurs, malgré les problèmes qu'il y avait entre la femme du rabbi précédent, qui n'acceptait pas son gendre comme Nassi, est difficilement déjà comme gendre. On a dévoilé, il y a quelques années de cela, on a dévoilé qu'il y avait une lettre qui avait été camouflée, qui avait été cachée, dans laquelle le rabbi précédent disait officiellement qu'il voulait que ce soit le rabbi qui soit son successeur. Et que les gens qui se sont opposés à l'intérieur de la famille à ce que le rabbi remplace le rabbi précédent, ils ont caché cette lettre jusque dans les années 80. Et donc on voit bien que, en fait, le rabbi précédent avait déjà désigné notre rabbi comme le successeur du mouvement. Et donc le rabbi est donc, depuis 56 ans, à la tête du peuple juif et du mouvement Chabad en particulier. C'est d'ailleurs plus facile d'être à la tête du peuple juif qu'à la tête du mouvement Chabad. Puisque les ennemis intérieurs sont plus difficiles à combattre que les ennemis extérieurs. Et c'est pas de moi d'ailleurs, c'est de lui d'ailleurs. C'est le rabbi lui-même qui disait ça. Et donc, Befoal, concrètement, le mois de Shvat, puisqu'on a commencé à expliquer que ça se passait le mois de Shvat, le Yud Shvat, c'est le mois de Shvat. Le mois de Shvat et le mois de Tevet sont des mois très durs dans le calendrier juif. Ce sont des mois très durs. D'ailleurs, on le voit au niveau du temps. Le climat du mois de Shvat et du mois de Tevet sont des mois de mois d'hiver très durs. Et donc, ça signifie aussi, au niveau spirituel, que ce sont des mois de rigueur. C'est pas par hasard qu'il y a écrit dans les Sfarim. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui traduisent aux gens qui parlent pas, hein. Alors, tiens, Michou, j'ai eu ta gueule, là. Ah, il t'a ôté. C'est quoi, vous voulez pas le traduire? Vous êtes un hébraïsant, non? Mais il m'a mis ta gueule, Bekolram. S'il traduit à voix haute, ça dérangera? Tu veux traduire à voix haute, ça ne te dérange pas. Non, c'est bien, tu es plus loin du micro, c'est mieux encore. C'est dommage, parce que comme ça sur traduit.org, il y aura tous les yordim qui habitent en France qui pourront au moins suivre sur traduit.org, ils pourront étudier, ou même en Amérique, ils pourront écouter la de la doute, puisqu'il y a plus d'Israéliens qui peuvent écouter Chassidut.org que les codes français. Ça prend, il y a au moins 2 millions d'heures, non? Voilà, alors, voilà. Comme ça, on a droit au bilinguage. Et donc, le mois de Shvat et le mois de Tevet et Shvat sont des mois très très durs au niveau Ouchani. Ils sont très très durs au niveau spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a écrit dans les livres que c'est le mois où, à Kadosh Baruch Hu, il est la quête Shoshanim, il prend les roses, il prend les tzadikim au mois de Tevet, au mois de Shvat, surtout au mois de Shvat. C'est-à-dire que c'est plus le mois de Shvat que les autres mois de l'année où les tzadikim qui s'en vont pour justement pallier, pour compenser la difficulté spirituelle qu'il y a dans le mois de Shvat et le mois de Tevet. Et c'est pourquoi on va comprendre que le fait que le Rabbi Reyatz et choisi de partir au mois de Shvat, et le 10 Shvat, ça veut dire que il y avait une intention spéciale dans le fait qu'il veuille partir le Yud Shvat. Comme chacun sait que le Rahim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, explique dans son Sefer que le Tzadikim, les grands Tzadikim, Dieu leur demande, s'ils veulent partir ou pas. Et les chassidim de Dieu, c'est-à-dire les grands tzadikim, Dieu leur demande s'ils veulent partir ou pas. Et il ne les force pas. Comme on voit que le Rabbi Reyatz, c'est une histoire que le Shamash de la synagogue a raconté à New York, que le Rabbi Reyatz montait toutes les semaines maftir. Il montait maftir toutes les semaines, on lui donnait le kavod de maftir. Et toutes les semaines, il payait, donc il payait au début de l'année, à Shabbat Bereshit, avant Shabbat Bereshit, il appelait le Gabay, le Shamash du Bet Knesset, le Gabay, et il lui donnait donc autant d'argent en dollars que les, qu'il y avait de martyrs dans l'année. Il donnait une somme qui se divisait en 53 ou 60 martyrs. Et donc le Gabay, il savait qu'il avait donc payé un an à l'avance. Et en Tafshin Yud, en 1950, il a donné une somme d'argent, et quand le Gabay est rentré chez lui, il a vérifié qu'il n'y avait pas du tout la somme habituelle. Et au contraire, en général, avec le coût de la vie, il aurait dû donner plus. S'il donnait 10 dollars, ce qui est énorme, par exemple, par Alia, il aurait dû donner 11 ou 12 dollars. Et cette année-là, il a donné une somme très, très, très faible. Et il n'a pas compris. Et quand le Rabbi Rayat s'est parti, le Shabbat de Yud Shvat, après, comment dire, le Mafréa, rétroactivement, il a compté, il a vérifié qu'effectivement, Rabbi Rayat savait combien de maftir il pourrait faire. Au début de l'année, il lui a donné la somme à l'avance. Donc on voit bien que le Gabay, il a donc su que le Rayat savait à quel moment il devait partir. Donc ça confirme que les tzadikim, c'est pas seulement qu'on les prévient qu'ils doivent partir, mais c'est eux qui décident qu'ils doivent partir. Et donc si le Rayat a voulu partir en Shvat, c'est que ça confirme que le mois de Shvat est un mois très très dur au niveau de la spiritualité. Et si le tzadik décide de partir, c'est que, comme on va essayer de l'expliquer, c'est qu'il a pensé qu'il avait besoin de partir, et en même temps il a pensé qu'il avait besoin d'une autre direction dans le mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rabbi explique que au niveau de la manihigout, au niveau de la direction du Ham Israël, le rabbi dit que c'est toujours le même manihig qui dirige le Ham Israël depuis Moshe Rabbeinu. C'est toujours le même. Il n'y a aucune différence entre le manihig et le suivant. Donc, Moshe, Yoshua, et Shmuel HaNavi, c'est-à-dire tous les manihigim du Ham Israël à travers les générations, c'est la même personne. Ah, pourtant on voit que ce sont des corps différents. Alors, ce sont des corps différents parce que ça va, en fonction de la génération, on va donner un style différent à la manigoute. Ça veut dire que de la même façon que du temps de Moshe Rabbeinu, c'était d'Ordéa, la génération de la connaissance. Donc, il fallait qu'ils soient Moshe Rabbeinu qui soit leur manie. Ceux qui sont entrés en Eretz Israël, ils n'avaient pas besoin d'être la génération de la connaissance, ils avaient besoin d'être la génération de l'action, puisqu'ils devaient conquérir la terre, travailler la terre, structurer la terre. Donc on a demandé à Yoshua de faire ça. Et c'est pas pour dire que Yoshua il est moins ou plus que Moshe Rabbeinu. Il est correspondant exactement à ce dont la génération a besoin. Et donc quand un manique s'en va et qu'il y a un autre qui le remplace, c'est que la génération elle a besoin d'une autre sorte de manigoute. C'est pas qu'elle a pas besoin de manique, Chas v'Shalom. Bien sûr qu'elle a toujours besoin d'un guide. Il faut toujours un guide. Mais le guide, il sera calibré, il sera organisé, d'après son caractère, d'après ses facultés, d'après les capacités qu'il a. Et donc, si la génération, par exemple, si la génération est méritante, alors elle aura un petit manique. Elle aura un manique, un gentil manique, tranquille. Si la génération est dure à cuire, est compliquée, est très troublée, alors il faudra un manigue avec les épaules très larges. Et donc ça veut dire que à la lumière du manigue qu'on a dans la génération, on peut s'imaginer qui on est comme génération. Donc si on voit qu'on a un manigue exceptionnel, c'est qu'on est une génération exceptionnellement dure. D'accord? Et donc c'est la photographie de la génération. D'accord? On peut la voir en fonction du manique que le bon Dieu a choisi dans cette génération-là. Et c'est pourquoi, donc, le choix que le Rabbi Rayatz a fait de partir en le Yud Shvat Tafshin Yud et de laisser à sa place le Rabbi comme successeur, en lui donnant un testament extrêmement facile à réaliser. Naron lui a donné trois tâches très faciles à réaliser. Il lui a dit, je compte sur toi pour changer l'Amérique, pour changer la Russie et pour changer Israël. Comme ça, il lui a dit. Et voilà tes trois mandats que tu dois remplir. Changer l'Amérique, changer la Russie et changer Israël. Et c'est dans cet ordre qu'il lui a donné d'ailleurs. Il lui a donné dans ce CDR-là. Dans cet ordre-là. L'Amérique, la Russie et Israël. Et effectivement, on voit que dans l'histoire, le premier pays qui est devenu le chef de file du monde juif, c'est l'Amérique. Comme dit le rabbi, Rov Minyan et Rov Binyan. La majorité numérique et la majorité au niveau des institutions, c'est l'Amérique. Où il y a les plus grands yeshivotes, les plus grandes institutions, le plus d'argent, le plus de d'organisations, le plus de personnes, même physiquement, actives. Bien qu'il y ait aussi le plus d'assimilation, bien évidemment. Après la Russie, changer la Russie, ça s'est fait effectivement avec le temps, avec les années qui sont passées. Et la dernière mission, c'est de changer Israël. Ça veut dire que Acharon, Chaviv, la dernière, c'est la plus chère, parce que c'est la dernière, c'est la plus dure. Parce que Eretz Israël, Baruch Hashem, c'est la terre où habitent des Juifs, pas seulement il y a l'Amérique, il y a aussi Israël. La différence, c'est que c'est pas le tout d'habiter. Baruch Hashem, les Juifs habitent l'Amérique, mais ne dirigent pas l'Amérique. Donc c'était faisable de changer l'Amérique. Baruch Hashem, les Juifs habitent la Russie, mais ils n'étaient pas dirigeants de la Russie. Donc c'était facile de changer la Russie. Mais changer Israël, quand des Juifs habitent, mais des Juifs dirigent, ça c'est le plus dur à faire. Comme on sait que jusqu'à maintenant, Rand Silvachian n'est toujours pas venu, c'est probablement parce que le dernier changement, c'est-à-dire celui qui doit se faire ici, le match final, le bras de fer entre Dieu et le peuple Israël, il est essentiellement ici. Comme on a dit tout à l'heure, que c'était plus facile d'être que le rabbi soit le rabbi de tous les juifs que le rabbi de Chabad, c'est sûr que c'est plus facile d'être rendre pour Dieu, c'est plus facile de convaincre George Bush de faire les 7 mitzvot de Béné Noir que de convaincre les dirigeants qui sont ici de faire les 7 mitzvot de Béné Noir. Puisque pas seulement de manger kasher et de faire shabbat, mais même cette mise en noir, c'est plus difficile de faire ça à des juifs. Donc on voit que à la lumière de la mission que le rabbi Rayas a donné au rabbi de changer ces trois mondes, l'Amérique, la Russie et Israël, on voit à quel point il considérait les forces que son gendre avait. Sinon il aurait dit, change la communauté ou change la ville, change la moitié d'un pays. Là, il lui a carrément demandé de changer des continents entiers. Ça veut dire qu'il savait pertinemment comment son gendre était capable de faire des efforts gigantesques pour changer les choses. Et comme on le voit jusqu'à aujourd'hui, donc, Baruch Hashem, que le travail que le rabbi Rayatz a commencé après la guerre, le rabbi l'a continué, et on voit que ça continue sans faiblir un peu partout dans le monde, et ça a même continué à réveiller d'autres communautés, d'autres groupes à se comporter d'après les chemins de la chassidoute, c'est-à-dire de parler du bien des juifs, d'essayer de faire avancer les choses positives du Ham Israël dans le Darké Noam et Darké Shalom avec la paix, non pas avec la guerre, avec des armes de paix et des armes de lumière, c'est-à-dire le derrière de la chassidut. Et c'est pourquoi on va essayer d'expliquer pourquoi c'est Yud Shvat que ça s'est passé dans la suite de notre Farangel. Chaim le Chaim le Chaim. I Donc le Yud-Shvat, que s'est-il donc passé le Yud-Shvat? On a déjà expliqué plusieurs fois que le que la plupart des fêtes chassidiques ont toujours lieu 5 jours avant un événement de la tradition classique. Comme on a dit, Yud-Bet Tammuz, la libération du rabbi précédent, elle est juste 5 jours avant le 17 Tammuz, le siège de la brèche du temple. Ou le 5 Tevet, la victoire sur les livres, elle a eu lieu 5 jours avant le 10 Tevet. Et également la Iloula du Harizal, 5 Av, elle a lieu avant le 5 jours avant Tisha B'Av. Donc on voit qu'il y a pratiquement chaque événement chassidique, il est 5 jours avant un événement du judaïsme classique. Et donc chez nous, c'est la même chose. Yud Shvat, c'est avant Tu Bishvat. 5 jours avant Tu Bishvat. Tu Bishvat, c'est le nouvel an de l'arbre. Rosh Hashanah Ra'ilan. Et donc, si le Yud Shvat, le rabbi précédent, donne la direction de la du mouvement au rabbi 5 jours avant le Tu Bishvat, c'est qu'il doit y avoir certainement un rapport entre la Nesiout du rabbi et Tu Bishvat. Et effectivement, Tu Bishvat, c'est le nouvel an de l'arbre. Et les drushim, les explications de la chassidoute, racontent que la fête de Tu Bishvat, c'est une fête spécifique, parce qu'on ne fait pas tous les nouvel ans, on fait le nouvel an de l'homme, Rosh Hashanah, l'homme, le jour où l'homme a été créé, et le nouvel an de l'arbre. Mais on fait ni le nouvel an des rois, Rosh Chodesh Nissan, on le fait pas comme le nouvel an des rois, on le fait comme le Rosh Chodesh, parce qu'il est Rosh Chodesh de la Geoula de Pessah, mais pas comme le nouvel an des rois. Et le nouvel an des animaux, Rosh Chodesh Elul, on le fait pas non plus. Donc on voit qu'on fait que deux nouvel ans, celui de l'homme et celui des arbres. Et pour quelle raison fait-on le nouvel an de l'arbre, à part le fait que l'homme est un arbre des champs et que tout le sujet que l'homme doit travailler, c'est de travailler sur ses midot, sur ses sentiments qui sont comparés à un arbre, à du végétal. L'autre raison pour laquelle on fait le nouvel an de l'arbre, c'est parce que Akadosh Baruch Hu aurait pu créer un monde entièrement fonctionnel, où il n'y a que des choses indispensables, comme du pain, de l'eau, des protéines, et malgré tout, on voit que Dieu a créé, en plus, des choses indispensables, il a créé des choses belles et superflues, belles dont on n'a pas besoin, à savoir les fruits. Quand on voit les fruits tropicaux et les fruits en général, on voit que c'est quelque chose d'extraordinairement beau et qui en vérité n'est pas indispensable à la vie. Si quelqu'un devait survivre, il aurait plus besoin de pain et d'eau que de d'orange ou de papaye. Et donc on voit que si Akadosh Baruch Hu, il a eu l'idée de créer une infinité de fruits de toutes les couleurs, avec toutes les formes possibles et tous les goûts possibles, c'est qu'il y a une autre dimension dans la création que l'utile, que d'être utile. C'est la dimension du ta'anoug, du plaisir. Un homme, il aime voir des beaux fruits, Ron, il aime voir des beaux fruits, il n'aime pas forcément voir du bon pain ou voir de la bonne eau. L'eau et le pain, hein, c'est pas parce que c'est beau qu'on les regarde, c'est parce qu'on a envie d'en manger et qu'on a besoin d'en boire. Alors que les fruits, même si on les mange pas, on aime les voir. C'est beau pour les yeux. C'est d'ailleurs pour ça que l'arbre l'arbre de la connaissance, c'était un arbre et non pas quelque chose d'indispensable. Ça avait l'air d'être un arbre de plaisir, comme Chava a dit. Il était beau à voir. Beau à voir. Et donc, si Akadosh Baruch Hu a créé des fruits qui sont beaux à voir, et qu'on fait justement le Rosh Hashanah de l'arbre, c'est justement pour montrer que l'homme ne vit pas que de pain et d'eau, mais il vit aussi pour, pas seulement d'amour et d'eau fraîche et d'eau, mais il vit pour avoir du plaisir sur terre. Il vit pour avoir des choses agréables sur terre. Alors, quand, la preuve, c'est que voilà, on voit qu'il y a des gens qui se sont préoccupés d'offrir des lustres à la yeshiva, ils auraient pu mettre des lustres comme au centre Beaubourg, en barre de fer, complètement affreux, en béton, etc. Alors on voit quand on fait quelque chose, on le fait beau. Comme le tabernacle de Bezalel, il n'était pas seulement fonctionnel pour faire descendre la shrina dedans, mais en même temps il était beau. Et on voit que le sujet de ce qui est beau, ce qui plaît à l'œil, ça fait partie de l'avodat Hashem. Une belle femme, c'est plus agréable pour se marier qu'une femme laide. Personne ne contredira. Et une belle maison, c'est plus agréable à vivre qu'une maison vilaine. Et un beau vêtement, c'est plus agréable à mettre qu'un vêtement en rugueux et vieux. Et donc, on voit bien que l'homme n'est pas seulement fait pour ce qui est indispensable, il est fait aussi pour le ta'anouk, pour le délice. Et donc si le rabbi prend la Nesiout 5 jours avant le Yud Shvat, c'est pour nous enseigner que à partir du rabbi, on va aller vers la Geoula Amitit, vers la délivrance du Mashiach, qui va amener dans ce monde-là le ta'anouk, dans le monde, où dans le monde sera comme un jardin plein de fruits, et pas simplement un jardin où on n'a que le pain et l'eau juste pour survivre. Et d'ailleurs, on le voit même au niveau de la Nesiout du Rabbi, que jusqu'au Rabbi Rayat, jusqu'aux années 50, il n'y avait pas toute cette opulence qu'il y a matériellement aujourd'hui dans le monde. L'opulence du monde, elle a commencé avec la Nesiout du Rabbi à partir des 50. Même aux États-Unis, qui ont de l'avance toujours dans les défauts et dans les qualités sur nous, l'opulence a commencé après les années 50. Et donc on voit qu'aujourd'hui, si aujourd'hui le Baal Shem Tov était rentré dans une Nidva Adout comme celle-là, il aurait dit, mais est-ce que c'est le tsar de Russie qui a organisé cette Nidva Adout? Ou est-ce qu'on peut avoir sur cette table toutes les couleurs, avec tous les goûts, et toutes sortes de poissons, et de boissons, et de lumière? Il n'y a que le tsar qui a dû payer une Nidva Adout comme ça. Alors que c'est une Nidva Adout toute simple aujourd'hui. On voit tellement de couleurs sur la table qu'on se dit, mais c'est quelque chose qui a une dimension qu'il n'y a jamais eu avant. Et ça n'a eu lieu qu'à la Nesiout, depuis que le rabbi est devenu rabbi. Donc c'est-à-dire que le monde doit aller dans la direction du délice. Mais seulement, il ne faut pas se tromper. Donc c'est-à-dire que avec le Rayat, jusqu'au Rayat, la avodat Hashem, le service de Dieu que tout le monde devait avoir, c'était une avodat Hashem dans la souffrance. Pas parce qu'on voulait la souffrance, chas v'shalom, de chercher la souffrance. Mais c'est parce que, ouais, les inouïs, on ne doit pas les chercher, les douleurs et les mortifications. C'est parce que le monde, la galoute, elle était faite de mortifications. Si les gens, quand le Rabbi Rayat se raconte que son père, quand il a fondé la yeshiva de Lubavitch, il disait que dans la ville de Lubavitch, les gens ne mangeaient rien toute la semaine. Il n'y avait que du pain et de l'eau toute la semaine. et que celui qui avait la chance d'avoir un pied de bœuf pour mettre dans sa soupe, il était considéré comme un riche de la ville. Alors quand il a fondé la ville, la Yeshiva, il a dit à sa femme, la rabbinite Sterna, il lui a dit, qu'est-ce qu'on fait pour la Yeshiva? Elle lui a dit, ils n'ont rien à manger, tu vas leur demander l'argent aussi pour la Yeshiva. Alors il a dit, ben moi je vais faire à manger, et ce qu'il aura à manger, ils mangeront. Et on raconte qu'est-ce qu'ils mangeaient. Ils mangeaient de l'oeil du pain. De l'oeil du pain, et de temps en temps, quand il y avait un riche qui passait, il leur donnait quelques oignons, ou quelques plaquettes de beurre. Et donc, ça veut dire que dans tout le monde juif, c'était comme ça. Dans le monde juif, on raconte les mêmes histoires en Irak, ou en Tunisie, ou en Boukhari. Par contre, dans tous les pays du monde, le monde juif était pauvre. Les gens avaient du mal à vivre. Alors que nous avons des facilités à vivre. Donc, si à l'époque, la souffrance, c'était le quotidien des gens, aussi bien au niveau de la Parnassa qu'au niveau du service de Dieu, qu'on pouvait pas étudier la Torah comme on voulait, on était poursuivi par les ennemis des Juifs là où on était. Et quand on était dans un pays où les Juifs n'étaient pas poursuivis, alors on leur faisait payer des impôts, et on les accusait de sang, etc. De meurtre rituel dans tous les pays, que ce soit les pays chrétiens ou les pays de l'islam. Donc on voit que les conditions de vie étaient, sans qu'on le veuille, étaient avec la souffrance. C'était une metziout, c'était une réalité. C'est pas que Chas v'Shalom, les Juifs cherchaient ça. C'était comme ça. Vient le Rabbi et il nous montre qu'effectivement, on commence à goûter à des choses plus faciles. Mais il faut pas se tromper. À l'époque, c'était difficile objectivement. Et on se mesurer à la difficulté, on n'avait pas le choix. On était obligé d'être mitmodet, de se mesurer avec la difficulté. Vient maintenant la nesiou du rabbi après Yushvat. Alors quand on leur dit les gens, maintenant c'est le tanouk qui compte, c'est le plaisir qui compte. Alors les gens s'imaginent que c'est vrai, c'est le tanouk qui compte. Et là on se trompe. Le tanouk, c'est le cadeau qu'on va recevoir. Mais le service de Dieu, il doit être plus difficile qu'il l'a été dans les générations d'avant. À partir du moment où on te donne des moyens plus forts, aussi bien au niveau spirituel que matériel, on te donne du confort, on te donne de l'argent, on te donne des facilités matérielles, c'est qu'on veut de toi plus de choses. À l'époque, on ne demandait aux Juifs que de vivre, de survivre. La Emouna, de vivre avec la Emouna, de monter sur le bûcher s'il le fallait. Maintenant qu'on te dit tu n'as plus de bûcher, maintenant qu'on te dit tu ne seras pas poursuivi, Ron, tu seras tranquille, on va te donner même de quoi manger, d'avoir un toit au-dessus de ta tête. Donc c'est qu'on te demande, si on te donne, quand on donne un quelqu'un qui travaille, quand on lui donne des conditions de travail meilleures, c'est qu'on veut qu'il fasse un travail de meilleure qualité. Sinon on lui donnerait pas des conditions meilleures. On lui demande un travail de précision, et donc la messirut nefesh qu'on demande, elle n'est pas moins, le fait de donner sa vie à Dieu n'est pas moins que ce que ça a été avant, jusqu'au rayat. C'était pas moins. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'on a une shlichut, une mission à faire, alors le satan vient et il veut empêcher la shlichut. Et donc la génération d'aujourd'hui, c'est une génération qui n'a pas envie de se casser la tête, qui veut du tanoug sans se casser la tête. Et ça, c'est un grave problème, et c'est pour ça qu'on est encore en galoute. Parce que nous sommes à l'image du Rabbi, et si on vérifie la vie du Rabbi, c'est une vie de souffrance. Et le Rabbi, s'il avait voulu, il aurait dit, non, je prends pas la Nessiout, je ne prends pas sur moi la responsabilité du Ham Israël. Je vais continuer mon travail tranquille dans mon coin, je vais étudier la Torah dans mon coin, je vais m'occuper des gens dont je peux m'occuper, et je vais pas mali matzara azot, qu'est-ce que j'ai besoin de ce malheur sur la tête. Le rabbi pouvait se dire la même chose, qu'est-ce que j'ai besoin de ce cassement de tête, d'avoir des problèmes à l'intérieur de Chabad, d'avoir des problèmes à l'intérieur du Ham Israël, d'avoir des problèmes à l'intérieur du monde avec les goyim. Pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi se mettre ça sur le dos? Pourquoi ne pas faire comme tous les autres rabbanim, attendre que ça avance et après rentrer dans le jeu. Que quelqu'un fasse le vent pour lui, comme dans la course, quelqu'un fasse le vent et que lui suive. Comme ils ont tous fait, d'accord? Aujourd'hui, tout le monde parle de qu'il faut ouvrir les yeshivot pour les balais de Tshuva, qu'il faut rapprocher les juifs, et qu'il faut, et qu'il faut, et qu'il faut. Ça, c'est le rabbi, il a commencé il y a 50 ans de parler de ça. Et tout le monde juif, orthodoxe, le monde chassidique, le monde orthodoxe et le monde juif, Bichlal, était contre lui. Et qu'est-ce qu'il avait besoin de se casser la tête? Il aurait pu être dans son coin, vivre sa vérité tout seul dans son coin, rendre et attendre le Mashiach dans son coin, comme tout le monde a voulu faire. Et on voit que le rabbi n'a pas fait ça. Il a pris sur lui d'aller contre tout le monde. D'aller contre tous les vents, tous les esprits de et sur chaque détail de dont il a parlé, il y avait une guerre. Il y avait une guerre intérieure et une guerre extérieure. Il n'y a jamais rien eu de facile. Donc si le rabbi a pris sur lui une telle mission, c'est qu'il demande au moins aux gens qui sont conscients de sa grandeur, de lui prêter l'épaule, de lui prêter aide, de lui donner un coup d'épaule, un coup de main. Et donc chacun doit regarder le rabbi en disant, moi je suis comme le rabbi. Comme le rabbi s'est tué pour la Torah, moi aussi je dois me tuer pour la Torah. Comme le rabbi s'est tué pour les autres, je dois me tuer pour les autres. Chacun doit se dire, qu'est-ce que je suis Torem? Qu'est-ce que j'apporte? Bon Dieu de bonsoir, de bon sang, qu'est-ce que je suis Torem? Qu'est-ce que j'apporte au peuple Israël? Qu'est-ce que je donne? En quoi je suis? J'apporte une contribution, une pierre dans le Beth Amikdash. Je rends service au bon Dieu parce que je lui mets les tefillines le matin. Je rends service au bon Dieu parce que je lui étudie quelques lignes de Gemara dans la journée, ou que je lui fais je lui lance, comme on lance au lion, un morceau de viande, je lui lance quelques tefillines dans la journée. Qu'est-ce que je donne au âme Israël? Chaque juif doit se dire, de la même façon que le rabbi et sa femme et toute sa famille ont donné leur vie et leur âme et leur temps et leur force jusqu'au dernier moment au âme Israël, chacun doit se dire, Yotshvat, qu'est-ce que je peux offrir au cadeau, comme cadeau au bon Dieu pour ressembler au rabbi? Comme le rabbi a montré qu'il a donné sa vie à tout, pour le âme Israël, chacun doit aussi dans son domaine à lui, donner sa vie pour le peuple Israël. Et si on n'est pas arrivé à cette conclusion, on peut parler des jours et des jours de Hitkashrut, qu'on est lié au rabbi, oui, on met le chapeau en tricorne, comme le rabbi avait un chapeau en tricorne, et on met un sertouk pour se déguiser comme le rabbi. On fait tout comme le rabbi, presque les mêmes slips que lui, les mêmes chaussettes que lui. Et on croit que c'est la Hitkashrut. La seule Hitkashrut, c'est de lui ressembler. On ne demande pas de lui ressembler dans les résultats, puisque lui, il avait des forces que personne ne peut avoir. Mais au moins, dans le domaine qui nous regarde et qui nous concerne, de lui ressembler mamash. Dans ce qu'on appelle, dans ce que les Mahamarim de Yud-Shvat, ce qu'ils appellent Chelko Ba'olam, dans ton Chelek, dans ta part. Ta part, c'est-à-dire soit avec ta femme, avec tes enfants, avec ton quartier, avec les gens que tu connais à travers le monde, ton entourage. Donc chacun, Chelko Ba'olam, il peut ressembler au rabbi. Et il doit se dire à chaque instant, par contre, il ne veut pas te dire qui je suis pour ressembler au rabbi. Par contre, pour faire le zouave, te déguiser comme le rabbi, par contre, presque distribuer des dollars comme lui, ça, tout le monde est là. Par contre, pour faire le clown. Au niveau vestimentaire, ça tout le monde est là. Mais pour être ressemblant au rabbi dans les mitotes et dans les comportements, ça, tout le monde devient un nav. Tout le monde devient humble. Qui je suis? Miani, Mani. Adafka, chacun doit dire je suis le rabbi. Oui, monsieur, je suis le rabbi. Tu as un balgava? Oui, mais sois un balgava, sois un orgueilleux. Prends cet orgueil-là sur toi de ressembler au rabbi sur toutes les choses qu'il avait à faire dans la journée. Et donc à ce moment-là, il y a un sens à la Hitkashrut. Il y a un sens à la... Ça veut dire quelque chose de dire « je m'attache ». Je m'attache au tzaddik de la génération, je m'attache au tzaddik en lui ressemblant. Comme Moshe Rabbeinu, quand Eldad et Medad ont prophétisé dans le désert, alors il y a quelqu'un qui est venu, il lui a dit « tu te rends compte ?» Qu'est-ce qu'il a répondu? Tant mieux! Mi-ten, il dit, à le vaille que moi, je suis prophète, sois prophète. Qu'est-ce que... Ah, mais à Canet-Atali, tu es jaloux pour moi. Au contraire, je suis pas jaloux. Que tout le monde soit ravi. Allez, vas-y, ouvre des succursales, sois ravi comme moi. Donc, qu'est-ce que tu crois? Tu vas déranger le rabbi quand tu vas faire ce qu'il faisait lui? Fais-le. Fadal, la porte est ouverte. Fais-le. Ressemble-lui. Mais ressemble-lui au niveau pnimi, c'est-à-dire comme lui. Comme lui avait horreur d'aller dans un Farbringen. Moi, j'ai horreur d'aller dans un Farbringen. Je vais dans un Farbringen parce qu'il faut vivre dans un Farbringen. Pas parce que je vais bien manger, et on va me regarder sur chassidut.org. J'aurais préféré mille fois, comme le rabbi, rester dans mon bureau et étudier tranquillement la Torah, avec les idées que j'ai envie de toucher et les livres que j'ai envie d'ouvrir. Donc, comme le rabbi n'avait pas du tout envie de descendre faire un Farbringen, une prestation hollywoodienne devant des milliers de gens qui le regardent à faire des tourniquets, il aurait préféré rester tranquillement étudier son Rambam ou son Daf Hayomi. Pourtant, il descendait et il parlait aux gens. En se disant que peut-être qu'un jour les gens vont écouter ce qu'il raconte. Pas seulement l'écouter avec les oreilles, ils vont l'écouter dans le sens de prendre au sérieux. De la même façon que le rabbi n'aimait pas le monde, il était un solitaire. Comme le Rayat s'y dit que chaque chassid est un solitaire, le rabbi aussi c'était un solitaire, il n'aimait pas le monde. Et pourtant, il était toujours avec le monde. Donc ça veut dire que il faut ressembler au rabbi Pnimiut, c'est-à-dire comme il était. C'est-à-dire l'essentiel, c'est résoudre des questions de la Torah, résoudre des questions du Ham Israël, qu'est-ce que je peux faire pour celui-là là-bas qui a besoin d'une aide spirituelle et matérielle. Voilà, ressembler au rabbi comme ça. Et ça s'appelle Aït Kashrut. Ça s'appelle être attaché à lui. Et celui qui ne fait pas ça, il peut toujours s'imaginer qu'il fait de l'Aït Kashrut, il fait stam de la figuration. Il fait de la figuration et encore très mal représenté. C'est pour ça que le fait que le Rayat soit parti Yud Shvat et qu'il ait confié au rabbi la mission de la Nesiout, de la responsabilité le Yud Shvat, c'est parce qu'il faut préparer le monde du délice, c'est-à-dire le monde du Mashiach, le Tout Bishvat général du Ham Israël. Mais le Tout Bishvat, comme on voit très bien, que quand on fait Tout Bishvat, on a le minag de boire du vin, Ron, c'est un minag de dire Geffen sur le vin, Ron, et de manger des fruits d'Israël, et chacun sait que l'un des fruits d'Israël, c'est l'olive. Et on voit que aussi bien l'olive que le vin, c'est des choses qui se travaillent. Ce sont les deux fruits les plus difficiles à travailler. Ouais. C'est les deux fruits les plus difficiles à élever et à travailler. On peut fabriquer des pommiers dans n'importe quelle condition. C'est pas aussi difficile au niveau agronome. Mais de fabriquer du bon vin, des raisins qui vont faire du bon vin, et comment on va savoir les presser, et à quelle heure il va falloir les presser, et comment on va fabriquer le vin, ça c'est un travail énorme de compétences. C'est de la humanoute, c'est du professionnalisme. Et l'olive aussi. Chacun sait qu'il y a des concours internationaux d'huile d'olive, parce que c'est pas le tout d'avoir des oliviers pour faire de la bonne huile d'olive. Donc on voit que les deux fruits essentiels de Tout Bishvat, c'est des fruits qu'on a obtenus par un travail extrêmement précis et de longue haleine. Et c'est pourquoi, c'est ce qu'on te dit, mon ami, tu veux le plaisir de goûter une bonne huile d'olive, tu veux le plaisir de boire un bon vin, hein, sache que pour ça, il faut beaucoup travailler. Ça veut dire, tu veux avoir le plaisir de Tout Bishvat, que ma chère vienne et que tu sois dans le monde du délice, eh bien pour ça, il faut travailler. Et pas stable travailler, mais travailler jusqu'à donner ta vie. Seulement, on te demandera pas de mourir pour ça. Jusqu'au Rayat, on demandait aux Juifs de mourir pour ça. Jusqu'au Rayat, c'est pas chute, l'histoire du Ham Israël depuis le début de la Galoute jusqu'aux 19, années 50, c'était très souvent de mourir. De mourir. Pas chute. Soit de mourir de faim, soit de mourir de l'antisémitisme, soit de mourir des difficultés. À partir du rabbi, on te dit non, c'est pas la peine. On te demande pas de mourir, mais on te demande de donner ta vie quand même. De ta vie sans mourir. Et de faire mieux les autres. C'est pourquoi on a changé de manigout, donc on voit que la manigout, elle reste toujours la même. C'est toujours le même manig, mais ça n'est pas la même façon. La même façon, parce que jusqu'au Rayatz, on se gênait pas pour dire aux gens, vous êtes là pour en baver. Après, au temps du rabbi, on vous dit, je dis aussi, bon, Rachem, tout le monde doit dire, on est là pour en baver, d'accord? Mais à la clé, il y a le Tanou qui va venir un jour. Alors qu'avant, on te disait, tu es là pour en baver, et à la clé, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que le monde futur, d'accord, si tu as fait comme il faut. Alors que là, on te dit, tu es de la génération, la dernière génération, donc tu dois en baver, mais tu auras le gros lot en fin de parcours. Mais ne pense pas que tu as le gros lot depuis maintenant. On n'a jamais dit que ça y est, c'est arrivé. Et c'est pourquoi il faut donc avoir en vue le principe du plaisir, du ta'anoug, mais savoir qu'il est loin d'être acquis, qu'il faut encore beaucoup concasser les olives, beaucoup travailler la vigne pour obtenir les résultats des fruits de Toubishvat. L'chaim, l'chaim, l'chaim. C'est une bonne question. On va maintenant, comme c'est la Iloula la sortie de la journée de la Iloula du Rabbi Rayatz, on va donner la parole pour Rabbi Yosef Elkabetz qui va nous faire le sioum du chasse de Mishnayot pour faire plaisir au mérite du Rabbi Rayatz.
Donc on va faire mériter en fait beaucoup de gens ce soir. Pas simplement les gens qui sont réunis ce soir avec nous à la Yeshiva, mais aussi ceux qui sont réunis ce soir avec nous par le biais de chassidut.org, les gens qui nous écoutent en France, ou autre part aussi, tous ceux qui sont reliés avec nous ce soir. Un petit bonjour à Dan, qui nous entend ce soir. Donc ce sioum du chasse, l'Elun Nishmat, Moshe ben Ben Talcha, Moshe Ben Chana, Shimon Ben Rachel, Suzanne Bat Esther, Vet Ren Suzanne Bat Esther, Vet Suzanne Bat Leonis, Vet Meir Ben Shlomo, Vet, et pour une jeune fille qui est partie il y a un an, une femme, une jeune fille qui a malheureusement, qui est partie très jeune, qui s'appelle Sophie Sarah Bat Maya, Vet Moshe Ben Aisha, ויעקב בן חנה, ואת סדה בן שמחה, ואת יוסף בן פיה. מי הבן בן? יוסף בן פיה, ספרו לו לעילוי נשמת. לעילוי נשמת. אשר בן אסתר. On voit que la fin de donc ce sioum hachas de Mishnayot se termine par une Mishnah bien connue et qui est toujours bon de répéter. Pour dire combien en vérité HaKadosh Baruch Hu attend de nous une chose importante. Celle de faire le shalom. Et le vrai shalom, pas celui que certains se prétendent avoir l'orgueil de pour en faire avec les Arabes, l'Avdil Abdalot. Mais hein, en vérité, un shalom véritable, et ce shalom il commence entre nous. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Atir la Kadosh Baruch Hu, Le'anchi l'chol tzadik v'tzadik, Shlosh Meot v'asara olamot. Dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu fera hériter pour chaque tzadik, pour chaque saint, 310 mondes. Chez Neymar, comme il est dit là-bas dans Michelet, Le'anchi l'ohave, ohavai, yesh, v'otzoroteem, et ma'amale. Pour faire hériter à ceux qui m'aiment du yesh, yesh, yeshai aussi, ça veut dire du cadeau, et je vais les remplir de trésors. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta. Il a dit Rabbi Shimon ben Chalafta. Lo matza kadosh baruch hu. Que Dieu n'a pas trouvé. Keli marzik bracha l'Israël et la shalom. Un réceptacle susceptible de recevoir la bénédiction comme celui de la paix. Chez Nehemar, comme il est dit dans Tehilim. Adonai oz la moiten. Adonai evarech et amo bashalom. Que Dieu a donné la force, la puissance à son peuple, que Dieu bénira son peuple par la paix. Donc on voit que la fin du Sioum, ainsi se finit donc le Sioum Hachas, Adranalar, Shita, Sidre, Mishnah, les six traités de la Mishnah. Et comme on voit que le début des Shisha, Sidre, Mishnah commence par Mematay, Korim, Et Shema, Kriyat, Mais matin, Korim et Shema Bervit, quand est-ce qu'on lit le Kriyat Shema? Et que le sujet de Kriyat Shema, c'est le sujet du Kabbalotol, de recevoir sur soi le joug de la royauté divine. Et comme le Rav Barkas vient de le signaler, qu'aujourd'hui, notre travail, c'est de négocier avec le Tanoug, avec le plaisir, mais que ce plaisir soit, en fait, au service de la Torah, au service d'Akadosh Baruch Hu. Et que pour cela, il faut en faire un travail qui est primordial. À prendre sur soi le joug de la royauté divine. Mais attention, la condition sine qua non, c'est quoi? C'est que ça doit amener au shalom. C'est-à-dire qu'en fait, comme souvent on l'a entendu ici à cette table, certaines personnes, lorsqu'ils se mettent en bon terme avec le bon Dieu, ils finissent par se séparer des gens. Et quand ils sont en bon terme avec les gens, en général, ils ne sont pas avec le bon Dieu. Donc là, le sujet, il est quoi? De s'attacher à Kadosh Baruch Hu du mieux possible. Et pour cela, il faut un travail de ce qu'on appelle de Kabbalatol, recevoir sur soi le joug de la royauté divine. Et que comment on sait que c'est le joug de la royauté divine que j'ai pris sur moi va se réaliser de la meilleure façon lorsque, en fait, ça mène au shalom. Lorsque je suis en paix avec mes frères, lorsque je suis en paix avec mon entourage, lorsque je suis en paix, en tranquillité avec les gens qui m'entourent. C'est la preuve même que le travail, la Avodat Hashem, le service de Dieu que je suis en train d'opérer, est en train de réussir. C'est qu'il découle, il amène à la paix véritable entre nous tous, la paix véritable dans le monde. Et donc, puisqu'on se trouve ce soir à la Eloula du Rabbi Rayat, et l'anniversaire de la Nessio, de la prise, comment on dit ça en français, de la prise de pouvoir du Rabbi, du mouvement Chabad, d'accord, de les responsabilités, la direction du mouvement Chabad, et on voit que le travail du Rabbi, justement, c'est de démultiplier le shalom, la paix dans le monde, au travers de la diffusion de la chassidut, au travers de la diffusion du judaïsme, au travers de la diffusion de la volonté du bon Dieu, pas simplement au niveau du Ham Israël, mais aussi au niveau des peuples du monde. Comme on sait, on voit que à New York, en Amérique, d'accord, il y a des bêtes Chabad pour les non-juifs. Il y a des bêtes Chabad qui ont été créées pour les non-juifs, pour leur enseigner les sept mitzvot des bnei noirs. Et donc, lorsqu'on s'adresse à un tzaddik de cette ampleur, qui a reçu un héritage colossal de la part du Rabbi Rayat, comme c'est marqué là-bas dans Bati Legani, c'est intéressant à voir que dans la première ligne du mamar de Bati Legani, le Rabbi Rayat est en train déjà de nommer en quelque sorte par allusion le rabbi, d'accord, dans ses futures responsabilités, en tant que rabbi. Et où on voit ce remède? Là-bas, c'est marqué, Bati Legani Achotikala, Veita Bemidrash Bimkomo. Il y a marqué comme ça que, Veita Bemidrash Rabba Bimkomo. Il y a marqué que dans le Midrash Rabba, là-bas, à son endroit. c'est pas tellement l'habitude des rébéim de citer un endroit sans le citer, c'est-à-dire à son endroit sans donner la marque de référence. On voit que lorsqu'il s'agit par exemple du mamar de la Khatuna, où là-bas le rabbi ramène le midrash aussi, le rabbi Rayat ramène le midrash, il dit que c'est Pirkei des rabbi Eliezer, il ramène la référence. Pourquoi il ramène pas bimkomo la référence exacte? Pour simplement nous éveiller la question. La question, qu'est-ce que c'est cet endroit-là? Pour qu'on aille chercher. Et là-bas, si on va chercher un peu la référence, ça fait référence au Shir HaShirim. C'est le Midrash Rabba dans Shir HaShirim, qui évidemment, le Midrash Rabba parle de quoi? De l'amour entre Akadosh Baruch Hu, la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, le mariage entre le bon Dieu, le Khatan, et la Kala, qui est l'Assemblée d'Israël. Et ce mariage-là, qui aboutit en fait, qui est en fait le symbole Bedrat Hashem de la Géoula, qui est le sujet de la Géoula, c'est le mariage total et définitif, d'accord, sans retour en arrière, du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu. Qui est-ce qui ramène ce pirouche-là du Midrash dans le Shir HaShirim? Regardez comment s'appelle le Tana là-bas, il s'appelle Rabbi Menachem Ta Chatania. Rabbi Menachem Chatania. C'est intéressant parce que le Chatan en hébreu, c'est le beau-fils, le gendre, d'accord? Le Chatan du Rabbi Rayat s'appelle Rabbi Menachem. Et donc en fait, c'est une allusion pour dire en vérité, voici qui va prendre la succession. Puisque le dernier Mahamar que le Rabbi Rayat va écrire, c'est le dernier Mahamar qui va être en vérité publié après son Istalkout. Il va l'écrire et ce Mahamar en question va être finalement publié, il va l'écrire quelques jours avant son départ, et il va être publié après son départ, à Yudjvat. D'accord? Puisque c'était un mamar qu'il avait écrit pour Yudjvat, pour la Iloula de sa grand-mère, d'accord? Marat, la rabbanite Rivka, et aussi pour sa mère, qui était en fait Yudgimel Jvat aussi, qui est partie de Yudgimel Jvat. Et le rabbi Rayat avait l'habitude d'écrire un mamar chaque année, et de mentionner sa grand-mère et sa mère, les Lou Nishmatam. D'accord? Et voici que, inhabituellement, en fait, Bashgacha Pratit, comme le dernier Shabbat, le dernier en vérité, Yudjvat, la dernière Iloula de la grand-mère et de la mère du Rabbi Rayat va se faire un Shabbat, donc le Rabbi Rayat va écrire le Mahamar avant. Il va anticiper, puisque les gens ne pourront pas le noter, d'accord, pendant le Shabbat évidemment, donc il va anticiper. Mais malheureusement, pour les chassidim du Rabbi Rayat, le Rabbi Rayat ne fera pas figure pendant le Shabbat Yudjvat, puisqu'il va partir justement en plein Shabbat. Et donc ça va être en fait le Mahamar testament du Rabbi Rayat, avec ces petits ramazdim, d'accord, comme on vient de le voir sur le Shir HaShirim, où le Rabbi Rayat va annoncer, en vérité, en quelque sorte son successeur, va ouvrir la porte à son successeur. Et ce Mahamar en question va être la pierre angulaire, la pierre de la base, en vérité, de tout le travail, de tout le service, de tout le cheminement que le rabbi va prendre durant toute sa nesiout, qui va être en vérité le mamar qui va lui donner tout son essor, puisque, comme le rabbi Barkat l'a mentionné plus haut, d'accord, que le rabbi va en vérité dévoiler que ce monde, bien que c'est Alma des Shikras, c'est le monde du mensonge, mais que du Sheker, en renversant les lettres, on peut arriver à Keresh. Keresh, ça veut dire la poutre, une poutre de soutien qui va être le soutien du Beth Amikdash. D'accord? Keresh. Et Keresh, aussi, comme on vient de l'entendre, c'est aussi, d'accord, l'union de Kesher, Itkashrut. Comment, par quoi on va passer en vérité la réalisation de faire de ce monde un jardin pour Akadosh Baruch Hu, une demeure pour Akadosh Baruch Hu, en étant Mekouchar, par la Itkashrut, par l'attachement que l'on a avec le chef de la génération, qui lui va donner les directives au Ham Israël pour pouvoir justement réaliser ce plan divin, cette volonté divine qui est de quoi? De faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu sur terre. Alors qu'on soit zoché que par le sioum des Mishnayot, et c'est pas pour rien que on a fait ce sioum les Sroutes pour le mérite du Rabbi Rayat, évidemment, et le Rabbi, parce que le Rabbi Rayat était un professionnel des Mishnayot. Il y a une fameuse histoire où le Rabbi Rayat était encore tout petit, un jeune enfant, et pourtant déjà il connaissait le chas de Mishnayot par cœur. Et un jour, son père, le Rabbi Racha, va le mettre en compétition avec un de ses chassidim, qui était en fait un donateur et un Talmid Chacham à la fois, qui lui aussi connaissait le chas de Mishnayot par cœur. Et il va alors faire une compétition à qui va dire le chas de Mishnayot le plus rapidement possible. Le Rabbi Rayat, si je me souviens bien, a fini le chas en 1h05. D'accord. Après cet exploit extraordinaire d'un enfant de quelques années, d'accord, devant un vieil érudit qui était en fait un chassid du Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab a pensé que peut-être il serait bon de lui enseigner la grammaire pour pas qu'il oublie en vérité, qu'il vienne à se sauter des mots, des lettres. Et donc on voit que déjà depuis son plus jeune âge, le Rabbi Rayatz était lié avec le Missirut Nefesh d'un rabbi pour la Torah, pour la volonté de son père, pour représenter, puisqu'on sait que par la suite, le Rabbi Rayatz va être incarcéré aussi dans son jeune âge pour avoir frappé un policier qui avait frappé un juif. D'accord, qui avait frappé un juif et donc il lui était venu à son secours, il avait sauté à la gorge et il a essayé de sauver le juif qui se faisait frapper. Et on sait que lorsqu'il a été attrapé, il a été mis en prison, déjà depuis son plus jeune âge. Et dans cette prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récité des Mishnayot. Et le Rabbi Rachab lui a dit, est-ce que tu sais qui était avec toi dans ta cellule? Il m'a dit, non, je sais pas qui était avec moi, la cellule était obscure. Mais a priori, alors le Rabbi Rachab lui dit, sache qu'à côté de toi, il y avait un veau. Il y avait un veau. Et la différence entre toi et le veau, c'est que toi, tu as récité des Mishnayot. C'est ça qui a fait la différence. Donc, on comprend que, déjà, depuis son plus jeune âge, on voit la bakiyout, la grandeur du Rabbi Rayat au niveau de son limoud, mais aussi au niveau de son misrout nefesh, pour l'âme Israël, encore une fois, pour un juif qui se fait frapper par un policier. Je garde à pratique qu'on parle de ça, puisqu'on avait vécu, malheureusement, de tels événements dernièrement. Mais on voit que le Rabbi Rayat va faire misrout nefesh pour l'âme Israël. D'accord? Même depuis son plus jeune âge. Et aujourd'hui, le Missirut Nefesh, il est plus de donner sa vie comme on l'a dit plus haut, plus de se jeter par la fenêtre parce que les nazis sont derrière nous, que Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, il faut faire Missirut Nefesh, et c'est le Rabbi Rayatz qui le mentionne dans ses Sichot, c'est Missirut Aratzon, de faire main basse sur sa volonté, de la mettre de côté, d'accord, et de dire ce que moi je ressens, mes sentiments sont pas forcément justes, sont des intentions peut-être motivées par le Yetzer Hara, et certainement des fois. Donc il faut que je fasse, mette de côté ces sentiments en question et que j'accomplisse la volonté du bon Dieu telle que ça se représente dans la volonté du Rabbi, d'accord, qui est le général d'armée, qui nous indique la marche à suivre. Et donc par cela, on arrive justement, Bezrat Hashem, et on arrivera certainement à faire venir Mashiach Techef Umiad Mamash. Mais sur votre vote.
Même ceux qui écoutent le Barbringen en Rousse-Larès peuvent répondre Amen au Kaddish. En direct, on répond Amen. Rabbi Hanania, Amen Akashé, Omer, Asak,
Marat Rivka Bat Suzanne, Refoua Shlema, qui a passé une opération aujourd'hui. Mais donc, Maramène. La 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 la
Maintenant, c'est la deuxième partie de l'Aïdvatout. On va la faire en hébreu. Ça permettra aux gens qui nous écoutent de l'autre côté de la Méditerranée de faire un ulpan gratuit. Et si ils connaissent pas l'hébreu, ça les incitera à le parler. C'est vrai que Ayemet Ish à Rabbi Rayatz Tirgem. אני הסברתי עכשיו שאני החלק השני של ההתוועדות זה בעברית. למרות זה שזה מוקלט ומשודר בכל קצווי תבל ברשת לדוברי צרפתית, אמרתי שאולי יחליטו ויתחילו לדבר עברית, וזה ייתן להם חשק. מה זה שהם לא מבינים, שבהתחלה הבינו ונהנו, אז החלק השני, כיוון שהם לא מבינים, זה ישפיע עליהם ללמוד את השפה. זה נכון שהרבי רייץ עשה מאמצים גדולים לתרגם, לייסד במרכז דני חינוך בית הדפוס, מרכז לענייני חינוך וקיאט, לייסד את המחלקת התרגומים שמה, שהרבה ספרים הרבי רייץ ביקש לתרגם אותם בהרבה שפות, בהמון שפות, כדי לאפשר לכל מיני יהודים בעולם שהם לא משיגים, לא מבינים את לשון הקודש, ללמוד תורה בשפה שלהם. וזה בזכות התרגום שמשה רבנו עשה בראש חודש שבט לפני 3,500 שנה. זה נכון שהרבי רייץ ביקש, וזה עדיין קוים, שהרבה הרבה ספרים מתורגמים בהמון שפות, אבל למרות זה יש יתרון כמובן לדבר בלשון הקודש דברי תורה, לא לדבר דברי שטות, נכון? כמו הממשלת ישראל, או הכנסת ישראל, או כל האלה שיש להם עדיין קצת שלטון לפני הסוף שלהם. יש עניין לדבר עברי, לשון הקודש, לדברי תורה. לדברי שטות לא צריך, אבל לדברי תורה זה כן צריך. ועד כדי כך שהמון, 90% אפילו, של הספרים של הרבי תורגמו בלשון הקודש, והמון שיחות של הרבי הוא ביקש בעצמו שיהיו בלשון הקודש. בהתחלה זה היה ביידיש, ואפשר לראות את זה שהתרגום המקורי והמוכשה של הרבי זה כבר דווקא בלשון הקודש, ובמיוחד כל המאמרים והשיחות שאמר בשנות ה-90. אז כל זה הקדמה להגיד שהחלק השני של ההתוועדות יהיה בלשון הקודש. היום הזה של י' שבט, אז כמובן יש שני חלקים. החלק של ההילולה של הרייץ הוא בד בבד קבלת הנשיאות של הרבי. ומה יותר חשוב בעצם? מה יותר מודגש? איפה החשיבות? זה שהרייץ הסתלק, או זה שהרבי נהיה מעל מקומו שלו? זה התלבטויות, נכון? בהתוודויות, מה להגיד? אז בעצם, זה דיברנו על זה הרבה פעמים. הרבי בעצמו, בהתחלת הנשיאות, היה מארגן את ההתוודות של י' שבט בי' שבט. בי' שבט עצמו. ומשנות, שנת תשמח, תשמ"ח, תשמ"ט, הוא התחיל לארגן, לערך, לערוך את ההתוועדות ביוד אלף שבט. כנהוג בישיבתנו הקדושה, שלמרות זה שיש הוראות ברורות של הרבי לא להיות שפיץ חבד, אבל יש לי הוראות ברורות להיות קשור, בלי הוראות אני משתדל להיות קשור, ומלפני כמה שנים כולם יודעים, בכל הארץ, בכל העולם יודעים שבישיבת הרב גבריאל מארגנים את ההתוועדות י' שבט, ונוסף להתוועדויות הרגילות שהן מוצאי החג, אנחנו מארגנים אותה בי' אלף שבט. זה דבר ידוע, וזה מבוסס על זה שהרבי מסביר בהתוועדויות שלו, שלפי הלוח, לוח השנה העברי, יש שתי אפשרויות לתת שייכות לחודש. יודעים שכל י"ב חודשים, התחלת ההתוועדות הייתה בצרפתית, עכשיו זה מעלין בקודש, אז עכשיו בלשון הקודש. לפי כולם יודעים שי"ב חודשי השנה הם כנגד י"ב שבטיה, נכון? י"ב שבטים. ויש שני אופנים לספור את החודשים האלה. או לספור את החודשים כנגד י' ב' שבטים כסדר הולדתם, ניסן, ראובן, יער, שמעון, סיוון, לוי, ותמוז, יהודה, ואז לפי הסדר הזה, נכון, יוצא שחודש שבט הוא חודש ה-11, חודש י' אלף, חודש 11, אז הוא כנגד יוסף לפי סדר הלידה של השבטים, נכון? ראובן, שמעון, לוי, אז זה נגמר בשבט, זה יוסף, וכמובן אדר זה בנימין, זה מתאים מאוד לפורים, שפורים זה מרדכי יהודי, איש ימיני משבט בנימין, זה הולך טוב. ושבט זה יוסף, אז זה כנגד, זה שייך להילולה של האדמו"ר הריי"צ. כל החודש בעצם קשור ליוסף, ואז זה היה מתאים שהרבי רייץ, שקוראים לו יוסף, יוסף יצחק, שהוא הסתלק בחודש שבט, בחודש שלו. והרבי מסביר שאפשר לספור, לסדר את החודשים, לא לפי סדר לדתם של השבטים, אלא לפי סדר המסעות במדבר. נכון? כמו שאנחנו סופרים בחנוכה, חנוכת הנשיאים, ואז, נכון? הסדר הוא שונה, מתחילים ביהודה, נכון? נחשון על המנהדיו, יהודה, אחר כך יששכר, זבולון, זה לפי מי שרוצה להסתכל, שמע בקריאת התורה של חנוכה, נכון? או פרשת נשא, סדר הנשיאים, שהיה גם כן, זה היה גם כן הסדר של נשיאת המשכן והארון במדבר. ואז יוצא, זה הרבי מדגיש, ויוצא שבחודש, ביום י' אלף של קורבנות הנשיאים, ובחודש י' אלף, זה יוצא שבט אשר. בשבט אשר, ואז הרבי פונה, נכון? עושה פנייה. 190, 180 מעלות, נכון? ומשנת תשמח, תמשין במתת, מתחיל לדבר על חשיבות, לא החשיבות של שבט יוסף בחודש שבט, אלא על חשיבות של שבט אשר, ועל חשיבות של מספר יוד א' לגבי המספר יוד שהיה עד עכשיו המספר העיקרי והחשוב. זאת אומרת שהרבי בעצמו נותן לנו רמזים, יותר מרמזים, נותן לנו הסברים, להגיד לנו שהעיקר שבחודש שבט הוא לא כל כך, הוא לא רק ולא כל כך החשיבות של יוסף ויוד שבט, אלא העיקר זה יוד א'. יוד א' שבט אשר, כל חסיד חב"ד מצלצל אצלו מיד, שקשור כמובן ליוד א' ניסן, שהוא יום הולדת של הרבה, זה גם כן קורבן של נשיא אשר, נכון? ביוד א' ניסן. אז רואים שהרבה, בלי חס ושלום להגיד, לפני כן זה היה חמיד, נכון? השווח שלי, עכשיו זה אני, רבי לא מדבר ככה, אבל הוא, נכון? ברמז, ברמזים ברורים, הוא אומר שהעיקר זה עכשיו, זה לא כל כך הנשיאות של הרייץ, לא כל כך שבט, אלא יוד א' שבט, בגלל זה אנחנו רגחנו את ההילולה ואת קבלת הנשיאות של הרבי עכשיו, ביוד א' שבט, ולא ביוד שבט, שזה העיקר עכשיו. ואני מתפלא על כל המשפיעים וכל בתי חב"ד וכל האנשים שממשיכים לעשות את זה ביוד שבט. זה כאילו, זה נדמה לי שאנשים לא קוראים את ההתוועדויות. או לא הקשיבו, לא מקשיבים למה שהרבי אומר. בלי לקרוא בין השורות, בלי להיות חכם או מקושב במיוחד, כל אחד שקורא את ההתוועדויות מתשמח עד הנון ב' רואה שכמובן העיקר זה יוד א' שבט ולא יוד שבט. ולכן אנחנו התארגננו היום לריחת ההתוועדות ביוד א' ולא ביוד. ולכן אם מתלבטים מה הכי חשוב, ההילולה של הרייץ או הקבלת הנשיאות של הרבי, בוודאי אנחנו צריכים להגיד, מוכרחים להגיד שהעיקר, למרות זה שאנחנו לא יכולים להיות קשורים לרבי בלי להיות קשורים לכל הנשיאים עד משה רבנו, נכון? ועד בכלל, שלא ייתכן שבן אדם יפרר, נכון? כמו אצל בחנות, שהוא רוצה מנהיג זה ולא רוצה מנהיג זה. מי שרוצה מנהיג, הוא חייב לקבל את כל המנהיגים ממשה רבנו, נכון? זה עסקת חבילה, הוא חייב לקחת את כל המנהיגים בעסקת חבילה, ולא להגיד, מנהיג הזה זה לא מעניין אותי, מנהיג הזה לא מדבר אליי, מנהיג הזה לא אכפת לי. הוא חייב לקבל את כל המנהיגים ולקבל את כל ההוראות של כל המנהיגים ממשה רבנו עד עכשיו. ולכן אנחנו צריכים לדעת ש ההוראות של הרייץ הן עכשוויות לגבי עבודת השם שלנו, לא פחות מההוראות של הרבי, אלא שההבדל הוא שהרבי נותן תנועה או תנופה חזקה לגבי הגאולה וביאת המשיח, ואצל הרייץ זה נותן לנו הרבה יותר עבודה פנימית. הרבין לא מביא כל כך עניינים פנימיים. הרבין התייחס לדור שלנו שהוא דור חיצוני, שהוא פונה לחיצוניות, וזה לא בגדי שהרבי היה באמריקה, עם רקע, העם הרק, החיצוניות, נכון? זה לא סתם וורט, זה לא סתם בדיחה, זה ממשי, אמריקה. ולפעמים אני צוחק, אני אומר, אני למדתי אנגלית בבית ספר, ואני שכחתי, אבל זה בקלות אני יכול לדבר. ואני אומר, בקלות זה אפשר לדבר אנגלית, עובדה, בוש מדבר. נכון? זאת אומרת שמה שאמריקאי יכול לעשות, כל בן אדם אחר יכול לעשות. נכון? חוץ מדבר אחד, החוצפה. שאמריקאים יש להם, הם ריקים, עם אמריקאי, לא מדבר על יהודים, סגנון, נכון? האמריקאים, הסגנון של החיים זה ריק, אבל זה חוצפה. זה בזכות החוצפה שלהם הצליחו. נכון? חוצפה, כמו שרואים שהאמריקאים אומרים, אסור לנו, נכון, לחסל מחבלים. זה לא יפה לחסל מחבלים. ומה הם עושים באפגניסטן כל יום ובעיראק? זה, נכון? הם מחסלים לא מחבלים, מחסלים עיירות שלמות, נכון? אלפי הרוגים, הם מותר להם. זאת אומרת, זה החוצפה שזה שלהם. והרבי דווקא הגיע לשם, הרבי רייץ הגיע לשם, הרבי היה חי שם, שזה הדוגמה, אנחנו צריכים ללמוד מהחוצפה. נכון? ללמוד מהחוצפה. אבל, זאת אומרת, עבודת השם אצל הרבי זה, הוא לא מראה לנו פנימיות, הוא מראה לנו חיצוניות דווקא. איך להתנהג ברחוב, איך להתנהג בעבודה, אופן החיצוני של החיים. למה? שהגלות היא כל כך חזקה, כל כך עמוקה, שהכל חיצוני. למשל, אם אתה מארגן אירוע, או אתה מייסד ישיבה, השאלה הראשונה ששואלים אותך זה לא מה אתה לומד שם, מה המסר שיש שם בישיבה שלך או באירוע שלך. לא, בכלל לא אכפת להם הרב. כמה היו אנשים? זאת אומרת, החיצוניות גוברת על הכל. או כמה זה יעלה לך? זאת אומרת, מה אכפת שאנשים יושפעו מהישיבה? לא אכפת שאנשים יושפעו מהאירוע. העיקר זה שיהיו אנשים. למה? שההשפעה, אתה לא יכול לצלם. אתה לא יכול לצלם את ההשפעה. אתה יכול לצלם רק המספר הגופני. וזה אותו דבר. אז הרבי יודע טוב מאוד שהדוח שלנו הוא נתקל, נכון? בעניין הכי קשה זה החיצוניות. אז מי שצריך להתמודד עם חיצוניות, אז כמובן צריך ללמוד את התורה של הרבי שפונה לחיצוניות. בגלל זה הרבי מתעסק ברשי, ברמב״ם, כל הדברים הפשטים, הפשטנים של העניין. אבל מי שרוצה לעבוד את השם בפנימיות, אז הוא צריך לפנות לרייץ. האווירה הכפרית והנשמה והיוזמנים, הרגש, זה הרייץ. אתה לא יכול לעבוד את השם ברצינות אם אתה לא לומד את הרייץ. ואתה לא יכול להתמודד עם העולם הזה, the world wide, נכון? ה-wide world, העולם הפרא האדם שאנחנו חיים בו, בלי להתייחס להוראות של הרבי. זה ככה. העולם בנוי משתי תנועות האלה. תנועה פנימית ותנועה חיצונית. וזה לא סתם. בגלל זה הרבי רייץ כתב ליקוטי דיבורים וספר הזיכרונות. הרבי רייץ תובל, מטביל אותנו באווירה של פעם. שאנחנו צריכים השל פעם הזה. לדעת איך זה היה בכפרים הקטנים, איך היו אנשים, היחס בין אנשים. נכון? היום, נכון? זה עזל מן השוק כל האווירה הזאת. אז אתה חייב להתייחס לאווירה הזאת וללמוד את ספרי הרייץ. ומזה אתה לומד המון המון דברים שהם כל המסר של הפנימיות. ולגבי הדברים האחרים, אתה פונה לרבי. אז לא ייתכן שבן אדם יגיד, לא, הרבי רייץ זה היה בתקופתם, היו לומדים את הדברים האלה שהיה שייך אליהם. אלא זה שייך, דווקא זה שייך אלינו, ורבי אמר את זה בפשטות, נכון? הוא אמר את זה בהתחלת מלחמת הלבנון, נכון? בשנות תשמ"ם ב', בהתחלת מלחמת שלום הגליל, שמר שרון, נכון? שזכותו יגן על אהוד אולמרט, שזכותו יגן על אבו מאזן, נכון? מר שרון הוא אחראי על יותר מ-1,000 הרוגים שם במלחמת לבנון, צריך להדגיש את זה, אנשים אומרים הוא גיבור ישראל, הוא כל כך גיבור ישראל, שבזכותו, נכון, בגין הוא נכנס בבוץ הלבנוני, נכון? בזכות שרון ובזכות רפול, ואנשים עדיין אומרים שרון, 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 צריך לדעת שאחריות על הרוגים זה לא סתם, נכון? אלפי הרוגים נחצחו, נהרגו במלחמת לבנון, ובהתחלת מלחמת לבנון, זה היה בתמוז, ביוד בית תמוז, חג הגאולה של הרייץ, הרבי צעק, נכון? הוא בכה, הוא בכה על זה שהולכים להרוג המון יהודים בגלל שרון, בגלל רפול, וחוסכים את החיים, את הנוחיות של ערפאת וחבריו, ככה רבי אמר, ולא דואגים לשלום אמיתי. ואחר כך דיבר על הרייץ, ואמר שדווקא י"ב תמוז, אנחנו צריכים לדעת שכל המאמרים וכל השיחות וכל הכתבים שהרייץ כתב, ואמר, זה דווקא הוא כתב את זה לדור שלנו. ככה הרבי אומר. הוא לא אמר את זה לדור שלו, אלא הוא אמר את זה לדור שלנו. וזה פשוט, שזה הפשט. זה ככה, למה? שבעצם כל הכתבים וכל הספרים של הרייץ, מי הדפיס אותם? זה הרבי, בדור שלנו. אחרי שנות ה-60 אפילו, נכון? כל הליקוטי דיבורים וספר הזיכרונות וכל השיחות של הרייץ, הודפסו אולם פעם. ואולי כמה בודדים קראו אותם, שמעו אותם, ורק אנחנו יכולים היום לקנות את זה ולקחו את זה. אז זה עובדה מוגמרת, זה פשוט, שכל הכתבים של הרייץ הם מיועדים אלינו. נכון? מישהו יגיד, אולי, שהרייץ לא היה צריך להדפיס ספרים, מכיוון שהחסידים שלו היו כל כך מקושרים, שידעו מראש מה שאמר הרייץ, נכון? שדבר ידוע, שכשבן אדם קשור ממש לרב שלו, אז הוא יכול לנחש מה הרב שלו אומר, אפילו אם הוא לא שומע אותו. זה בדיוק מה שקרה עם האבא של הרבי, הרב לוי יצחק, כשהרב ננס, שהיה פה חסיד בירושלים, הושלח על ידי הרייץ, נכון? אלפי קילומטר אצל הרב לוי יצחק, שהיה 2,000 או 3,000 קילומטר של מרחק בין ההתוועדות של הרייץ ובין המקום שהיה נמצא הרב לוי יצחק, והרבי רייץ אחרי ההתוועדות נתן כרטיס נסיעה לרכבת לרב ננס, שהוא היה אז ילד בין 18 שנה, בין 13 שנה, קצת יותר מבר מצווה, והוא אמר לו, תיסע ברכבת ותמסור דרישת שלום חמה לרב לוי יצחק, לרב לוי יצחק. והוא היה כמובן להתוועדות שלו, צעיר, שמע את ההתוועדות של הרייץ, והוא אמר, אני אתן מתנה לרב לוי יצחק ואני אחזור על כל מה ששמעתי מהרבי, שהוא שמע במרחקים, הוא ישמח לשמוע את מה שאמר הרבי רייץ. כשהיא נכנע, אחרי כמה ימים של נסיעות, נכון, זה היה טרנס-אירופה אקספרס, נכון? הרכבת הכי ארוכה שבעולם, הוא הגיע אחרי 3-4 ימים של נסיעה, והגיע אצל הרב לוי יצחק, וכשפתר את הדלת, הוא נתן לו כמובן כוס תה חם וכמה הוגיות לאכול אחרי כמה ימים של צום, והוא השיב אותו על השולחן שלו, הרב לוי יצחק, והתחיל לסגור את העיניים, ואמר לו, עכשיו אני אגיד לך מה הרייץ אמר בהתוועדות. שתדע שאני יודע מה הרייץ אמר בהתוועדות, סגר את העיניים ואמר כמעט בעל פה כל הנושאים שהרבי רייץ אמר. זה נקרא התקשרות. שהוא ידע למחכים על מה מדבר הרב. זה התקשרות. אז אולי תגידו במאמר המוסגר, נכון? מי שרוצה לשמוע את סוף הסיפור. אז הרב ננס שהיה, הוא היה יודע שהקומוניסטי כובש את כל העולם המזרחי ועושה פוגרומים ומחנות וכל מיני דברים בלתי רצויים. אז הרב לוי יצחק אמר, אתה רוצה סוכריה עכשיו? אתה רוצה סוכריה? אז הילד כמובן אמר, בוודאי, מי לא רוצה סוכריה? אז הוא אמר, אני אתן לך סוכריה עכשיו. הוא פתח את הדלת של המשרד שלו, והוא הראה לו את הרבי שלומד גמרא בדבקות ובעמקות. הוא פתח את הדלת והראה לו את הילד מנחם מנדל שהיה לומד שם, והוא אמר, זה הסוכריה שלך. והבין שזה הסוכריה כשתפסו אותו, הבולשביקים תפסו אותו, נכון? שמו אותו לבית סוהר, וכשהרייץ הסתלק והרב ננס קיבל בבית סוהר שלו, קיבל את הניו יורק טיימס בפנים, שהוא היה בוכה כל יום, מה עם הרייץ? אני לא מקבל ממנו שום חדשות, אני בסיביר, שנים, שום חדש. והמנהל של הבית סוהר אמר לו, הרבי שלך מת, וזרק לו את הניו יורק טיימס עם תמונתו של הרייץ והלוויה שלו יושבת, והוא התחיל לבכות שלא זו בלבד שהוא בבית סוהר אבוד וגמור, ושומע שהרבי הסתלק. אז תתארו לעצמכם את המצב שלו הנפשי. ואחרי כמה ימים אותו מנהל בית סוהר הגיע ופתח את הדלת ואמר, איי, 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 איתכם זה לא נגמר. וזרק לו את ה-New York Times, הסוכריה, והוא רבי, רואה את התמונה של הרבי, ואומר, יש רבי לחדש בלובביץ'. אז הוא ידע שבעצם הסוכריה התגשמה, והוא יצא, ברוך השם, לחירות, ונכנס לחידות, וחי פה ברחוב. פה באזור, וקנה את החלב שלו בכל בוטק, נכון, עד כמה, לפני כמה שנים, הרב ננס, זאת אומרת, הוא ראה את כל הסיפור, כל ההקצאות של הרבים, שני רבים. אז תגידו, בפשטות, אז מה היה צריך הרייץ למסור את נפשו, להדפיס ספרים, ברגע שהיו לו חסידים כאלה? ברגע שאתה מדבר ויש מישהו למרחקים שמסוגל לזכור, נכון? ולחזור על כל מה שאמרת, אז בשביל מה להדפיס ספרים? אז היית יכול להגיד, אוקיי, לא צריך להדפיס ספרים, יש לו חסידים. אבל זה סתם, כמובן, זה כאילו בדיחה. זאת אומרת, בוודאי שהרייץ, היו לו כמה חסידים קושרים מאוד, שהיו יכולים לזכור, אפילו בלי לשמוע את הדברים שלו. אבל כמובן, העיקר זה, היו צריכים להדפיס את זה, ובגלל זה הרבי אמר בפשטות שכל הספרים הודפסו עכשיו, דווקא שזה שייך אלינו ולא שייך לדור שלהם. אז אני מציע לכל אחד ואחד, שמי שרוצה להתעניין על הספרים של הרבי רייץ, הוא יבין דברים נפלאים ונוראים וששייכים לעבודת השם, ושידע איך מרגישים, איך גם מרגישים ארץ ישראל, איך מרגישים את את הקשר בין שני אנשים, איך מרגישים את את האווירה היהודית של פעם, שלא כל אחד יש לו עדיין סבא או סבתא שיכול לספר לו איך זה היה. לפעמים הדורות הלכו לעולמם, אז לפחות שיש לנו ספרים. ואז אני מציע לכם לקרוא, ללמוד פיקוצי דיבורים וספר הזיכרונות, כדי להתקשר כמו שצריך לרבי. חיים לחיים לחיים. On n'arrête plus le progrès. Tellement.
Vas-y, je vais parler pendant deux heures.
Ah ouais. Mais le rabbi, combien de temps il parlait?